La France bouge, c'est jusqu'à 14h avec vous Raphaël Duchemin et c'est le moment, Raphaël, de découvrir la solution d'Elisabeth Assayag.
Oui, on va donner aux enfants, figurez-vous, le goût de l'écriture. C'est l'ambition de la start-up qu'on va recevoir dans un instant, Elisabeth. Elle s'appelle Plume et c'est la solution.
Oui, Plume, c'est une start-up qui propose chaque jour, hein, c'est un site internet, une appli qui propose chaque jour à un enfant âgé de 8 à 11 ans la possibilité de recevoir un petit bout d'histoire à compléter, quelques lignes, pour l'inciter à compléter l'aventure qu'il est en train de lire avec ses mots et avec son imagination. Une correction est envoyée pour permettre à l'enfant de progresser petit à petit dans l'écriture de son texte, des histoires sur mesure en quelque sorte, et à la fin, la possibilité de recevoir un livre coécrit par l'enfant. Bonjour Aude Guénaud.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice de Plume. Quel parcours, hein, puisque vous êtes passée de professeur de français à entrepreneur. Que s'est-il passé pour arriver à Plume ?
Eh bien, en fait, c'est vrai que ça paraît un grand chamboulement, mais ça s'est fait de façon assez harmonieuse, puisque au tout début, on a développé en fait, ce projet avec des collègues. On avait développé vraiment un comité pédagogique avec 57 enseignants, orthophonistes, psychopédagogues. Et on cherchait un moyen de développer l'expression écrite, qui est un enjeu sociétal absolument majeur et déterminant, chez les enfants, ayant constaté que les enfants, en entrant en sixième, eh bien, avaient perdu cette appétence de l'écriture. Et c'est tout à fait dommage parce que c'est le moment qui est le plus propice pour eux, en fait, pour apprendre à rédiger. Donc, au début, on envoyait des bouts de PowerPoint à nos clients, on envoyait ça, on proposait ça à nos élèves, etc. Et très vite, on a développé une communauté, 1500 élèves ont écrit les premiers romans et on a été incroyablement primés par la Fabrica Viva. Donc, on a été très heureux et très rapidement presque débordés par le projet.
Et par les demandes.
Oui, alors, la question s'est posée. Il fallait en fait construire le projet véritablement d'une façon entrepreneuriale. Et donc là,
alors là justement, voilà. Plume est née, Plume existe. Si j'ai un enfant, j'ai 8 ans, comment ça marche ?
Alors, si vous avez un enfant qui a 8 ans, alors déjà, vous allez télécharger l'application. vous allez en fait lui proposer d'entrer dans un univers. Donc, le palais merveilleux, la forêt enchantée, l'île mystérieuse en fonction de son âge. Et ensuite, vous allez avoir une kyrielle d'histoires qui lui seront proposées et c'est à lui de choisir le début d'histoire qui lui fait envie. Parce que ce qui est très important pour nous, c'est vraiment le plaisir d'écrire, de lire, le bonheur de créer. Donc l'enfant va choisir son début d'histoire et pour accéder à la suite, il va devoir lui-même écrire. Et plus il écrit, plus il va être incité à le faire et plus il va s'engager dans l'aventure de l'expression écrite.
Il l'écrit sur son smartphone ? Sur un bout de papier avec un stylo, il fait comment ?
Eh bien, c'est comme vous voulez, en fait. Nous, on n'a pas du tout un positionnement clivant par rapport au numérique. Il y a des enfants qui ont absolument besoin d'outils. Donc, nous, on a des résumés, on a la possibilité d'écouter les histoires. On
il
a
peut
des
même
synonymes.
S'enregistrer ?
Il peut s'enregistrer s'il le souhaite.
Mais là, on n'est pas dans l'écriture.
Mais en fait, il y a des enfants qui ont besoin de commencer à construire la narration de cette façon. Donc, c'est très important de les positionner dans quelque chose de valorisant qui va les sécuriser. Et si votre enfant a envie d'écrire sur un carnet, on a plein d'utilisateurs qui écrivent avec un stylo sur un carnet, pas de problème, vous prenez en photo. On a énormément d'enseignants qui font ça. En fait, ils prennent en photo les écrits de leurs élèves qui sont dans le cahier d'écriture. Et donc, bah, ça se passe très bien. Et il y a des enfants qui ensuite passent au clavier, parce qu'il ne faut pas oublier que écrire avec le numérique, c'est une compétence du cycle 3 dans l'éducation nationale. Et donc, c'est une compétence qu'on a besoin de travailler. Et donc, s'il est besoin, et bah, c'est possible.
Riyad, notre coach.
Moi, je suis impressionné. Non, c'est vraiment génial. Bravo à vous. C'est intelligent. C'est intelligent. Ça a pris en compte énormément de paramètres, et pas uniquement le côté ludique, mais aussi donc ça s'inscrit. Je trouve ça vraiment très bien. Par contre, il faut des gens derrière pour traiter les documents, les photos. Quand ça a été sur un petit carnet, c'est pas un ordinateur qui le traite. C'est forcément un enseignant ou quelqu'un qui le fait. J'ai une question, bah vous gagnez votre vie comment ?
Eh bien voilà, donc en fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'on a réussi à développer la gratuité pour tous les enseignants.
Donc c'est destiné aux élèves, aux particuliers, mais aussi ça peut être un outil de travail en classe pour l'enseignant.
Et donc nous, notre ambition, c'était vraiment de proposer un outil ultra innovant pour développer le plein potentiel de tous les élèves, mais que ce ne soit pas un outil qui soit encore cher et encore destiné à seulement certains enfants. Donc, notre business model repose sur, en partie, du B2B, qui nous permet de vraiment construire une monétisation qui
avec
est intéressante.
Les écoles, c'est ça ?
Non, pas avec les écoles, avec des partenaires corporate. Donc, si vous êtes corporate et que cet outil vous intéresse, contactez-moi. on a des entreprises qui ont envie, qui ont besoin de se positionner sur un segment éducation, famille, pédagogie et qui vont utiliser Plume, par exemple, pour des programmes de fidélisation, ce genre de choses. Et donc, ça nous permet de vivre et de monétiser notre produit.
Combien d'histoires déjà écrites ?
Alors, combien d'histoires écrites ? Là, on a dépassé les 10 000 enfants, donc on est hyper heureux. Et presque 3 000 romans.
On les trouve où, ces romans ? Sur Plume
eh ben, on les trouve, les Plumitzer, chaque mois.
Parce que ça
pourrait
être commercialisé. Mais
oui, vous pourriez les
Tout
rééditer.
Tout à fait, oui. On a eu des propositions en ce sens d'un partenaire presse. Donc oui, on édite nos Plumitzer. Je vous ai apporté un livre pour que vous voyez.
Et il est là, sur Europe1.fr.
C'est un Pulitzer voilà, d'un écrivain prometteur. Voilà.
Et vous êtes hébergé par The Family.
Tout à fait.
Qu'on salue au passage. Merci beaucoup d'être venu nous parler de Plume. C'est la solution pour aimer lire et aimer écrire.
Il est midi 58.
Europe 1. On reste ensemble sur Europe 1 dans un instant. On va s'intéresser à votre alimentation. Est-ce que la tech peut nous aider à mieux manger ? On vous attend.
Europe 1. Midi 14h. La France bouge. Raphaël Duchemin.
Bienvenue dans La France bouge. Aujourd'hui, c'est d'alimentation que nous allons parler ensemble. Car demain ouvre à Dijon le Food You Steak. L'occasion pour nous de nous demander tout simplement si la technologie peut vraiment nous aider à manger mieux, à manger plus sain. On attend évidemment aussi vos commentaires, n'est-ce pas Céline ?
Oui, vous nous écrivez sur Twitter, @Europe1. Vous pouvez également nous appeler au 3921.
À mes côtés, comme chaque jour, Elisabeth Assayag est là. Et notre coach aujourd'hui, c'est Riyad Boulanoir, fondateur notamment de la méthode Boulanoir. C'est vrai qu'on se demande tous, à l'heure des repas, en ouvrant le réfrigérateur, comment on va faire pour cuisiner équilibré. Si on rentre tard et qu'on n'a rien prévu à l'avance, on est parfois tenté de faire ce qui nous tombe sous la main. C'est pour ça qu'est née Familite. Bonjour Pierre Barnier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous avez 29 ans.
Exactement.
Et alors votre mission, celle en tout cas que vous vous êtes fixée, c'est de livrer des plats cuisinés adaptés aux familles. Je crois que c'est une histoire personnelle qui vous a donné l'envie. C'est votre sœur qui est venue vous dire, toi qui es dans la tech, tu ne peux pas faire quelque chose pour nous.
Exactement. En fait, elle avait une amie qui avait 3 enfants et elle cherchait à lui offrir un cadeau pour l'aider dans cette tâche du quotidien qui est le dîner. Et donc, elle voulait lui offrir des plats de qualité livrés à domicile chez elle. Alors, il s'avère qu'elle habite à Buc, donc c'est un petit village à côté de Versailles qui est très charmant, mais dans ce genre de zone semi-rurale, en termes de livraison de plats, on est souvent limité aux livreurs de pizza ou livreurs de sushi. Donc, ce n'est pas exactement ce à quoi elle pensait. Et donc, elle m'a demandé bon, qu'est-ce qui existe, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il n'existait rien pour satisfaire ce besoin. Et on s'est lancé ce défi un peu de créer cette offre nous-mêmes.
Oui, vous vous dites qu'il y a une place à prendre et vous Exactement. Commencez à élaborer le projet. Il faut déjà savoir cuisiner pour pouvoir livrer des plats.
Ah bah ça a été le premier défi. Donc tout a commencé. Au début, on en a parlé à des parents qui nous ont dit « bah oui, le dîner du quotidien, c'est une vraie galère en effet ». On a chacun un peu son organisation, mais c'est jamais hyper satisfaisant. Et donc le deuxième défi, c'était comment on allait produire ces plats. Donc au début, on a cherché à faire via des traiteurs ou des restaurateurs, mais on s'est rendu compte que au niveau du contrôle de la qualité, ça allait être compliqué. Et donc en mai 2018, on s'est dit bon bah on va le faire nous-mêmes. Et donc en un mois, on a mis en place notre production, donc trouver un chef pour faire nos recettes, confectionner nos recettes, organiser le sourcing, trouver une cuisine et des cuisiniers.
Alors justement, vous êtes tous à United Kitchen, c'est ça ?
Exactement. C'est des cuisines partagées professionnelles qui sont situées à Nanterre. Donc c'est génial quand on se lance d'avoir ce type d'opportunité. Ça n'existait pas il y a quelques années, c'est encore assez jeune. Ça nous permet de louer l'espace, d'avoir l'espace, tout le matériel dont on a besoin et de pouvoir se lancer à moindre coût sans avoir à investir dans une cuisine professionnelle qui est bien sûr très coûteuse.
Vous avez commencé à élaborer les repas comment ? Avec un coach nutritionnel ?
Avec plutôt un chef cuisinier, donc Bertrand Guéneron, qui travaille avec nous depuis maintenant un an et demi, qui est un chef de la gastronomie française. Donc il était second d'un 3 étoiles parisien pendant 15 ans. Ensuite, il a travaillé chez Carrefour dans la confection de plats cuisinés. Donc il a aussi cette vision plats cuisinés nutrition. Et ensuite, il a eu son restaurant et il nous a rejoint au début de l'aventure pour confectionner nos plats. Et sur la partie nutrition, on confectionne nos recettes en suivant les recommandations du PNNS. Je ne sais pas si vous connaissez, Programme National Nutrition Santé, qui est plus connu sous le Manger Bouger.
Oui.
Et en fait, il y a tout un tas de recommandations. La plus connue, c'est les 5 fruits et légumes par jour, bien sûr. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Et c'est comme ça qu'on a confectionné nos recettes avec plein de conseils de leur part.
Et alors, quand on vient sur votre site, on peut commander en fonction des goûts de la famille. Je peux vous demander un plat pour tous les lundis, un plat pour toute la semaine, tous les soirs, livré chaque jour chez moi?
Alors non, on livre une fois par semaine. On a aujourd'hui 5 plats chaque semaine qui changent chaque lundi. Ça va évoluer.
J'ai vu
augmenter.
Un avarin d'agneau, par exemple.
Ouais,
j'ai
exactement.
Vu des lasagnes.
Des lasagnes, des crumbles saumon poireau, des plats. On essaye de faire des plats en sauce. Et aussi des plats, des gratins, des lasagnes, vraiment c'est des plats familiaux.
On est dessus là.
Française.
La salade d'aubergine à la feta et au miel.
On a faim,
ça y est.
Alors justement, Elisabeth, les entreprises de livraison de plats cuisiniers, ça commence hein, depuis 5 ans.
Depuis 5 ans. Alors en 2015, il y a les gros, les mastodontes, on les connaît, hein, Deliveroo, Foodora, débuté en France. 2007, Uber Eats les a rejoints. Il y a encore 4 ans, la livraison, vous l'avez dit tout à l'heure pour l'expérience de votre ami à Buc, hein, la livraison de repas, c'est un secteur réservé aux pizzas, hamburgers et sushis. Tout a changé avec l'arrivée des applis et cette espèce de démocratisation des applis. Tout le monde sait s'en servir. Les gros acteurs de l'industrie alimentaire comme Sodexo et Nestlé se sont mis aussi dans la course hein, des livraisons de repas à domicile. Et en France, ce marché de la livraison de repas à domicile, il est estimé à 3,3 milliards d'euros, avec un peu plus de 5% de la restauration commerciale, sans progression de 20% par an. Donc, il y a un énorme marché.
Riyad ?
Première question, déjà, bravo, mais ça coûte combien ?
Alors, du coup, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'on fait des plats à partager. Je pense qu'on est les seuls à faire ça. Donc, en fait, c'est nous qui nous adaptons au format familial
donc,
de chacun.
Donc, si on est 4, vous faites pour 4.
Exactement.
Voilà. Par exemple, à 3,25€ par personne pour un plat pour 4, pour cette fameuse... Salade d'aubergine à la feta et au miel.
Je crois qu'elle a un faible pour la salade.
Et du coup, en fait, on fait des tarifs dégressifs en fonction du plat, du volume commandé, pour aider les familles les plus nombreuses à commander. Donc, on va aller de 6€ par personne pour un plat pour 7 à 8,90€ pour un plat pour une personne. D'accord. Un plat pour une personne qui est plus cher, mais en moyenne, pour 4 personnes, c'est 4,90€ le plat. Donc, on est compétitif.
4,90€ par personne.
Par personne.
Donc, en gros, c'est 20€ pour la famille et par dîner.
Ouais, exactement.
C'est ça. Okay.
Aujourd'hui, vous avez combien de clients ?
On a plus de 250 clients aujourd'hui en un an de commercialisation, donc on est assez content.
Et vous livrez partout en France ?
Et surtout, on livre partout en France. On a seulement 20% de notre clientèle qui est basée en Île-de-France et vraiment tout le reste dans toute la France, dans le nord, dans le sud. Et surtout dans des villes de moyenne taille, Nancy, Blois, etc., qui nous disent « mais enfin, il y a des gens qui pensent à nous ». Parce que c'est vrai que les Deliveroo et Uber Eats, ils se développent rapidement, mais ils sont pas encore dans ces villes-là.
Ils sont dans les grandes villes.
Et ils sont dans les grandes villes. Donc il y avait vraiment la livraison à domicile de plats cuisinés frais comme ça. C'était vraiment dans des milieux urbains.
Elisabeth,
Frichti faisait un peu la même chose. Là récemment, ils se sont complètement diversifiés. Maintenant, ils livrent énormément de restaurants à proximité du domicile. Pourquoi vous êtes resté sur ce segment, c'est-à-dire livraison de plats préparés? Vous pensez que ça peut tenir dans le temps, économiquement parlant ?
Complètement, parce que en fait, Frichti, ils sont sur une zone géographique qui est Paris et le bassin parisien. Nous, notre cible était plutôt dans
les
le
oubliés.
Reste des endroits, les oubliés. Donc, on se disait, déjà, il y a quelque chose à faire. Et bon, il y a quand même 9 millions de familles en France avec au moins un enfant, donc il y a déjà du potentiel. Et après, nous, c'est vrai qu'on verra comment ça se développe, mais c'est vrai qu'on pourra développer d'autres produits pour la famille ou pour le plus jeune âge ou pour les personnes âgées. Il y a encore des choses à faire.
Riyad ?
Ouais, mais donc vos frais de livraison, ils sont inclus dans les tarifs dont on a parlé tout à l'heure ?
Voilà, on demande une participation de 3€ pour la livraison en dessous de 50€ et on offre la livraison au-dessus de 50€.
Donc ça veut dire que si je me fais livrer des lasagnes au sommet du Mont Blanc, vous venez me les amener, quoi ?
Ça va mettre un petit peu de temps, mais oui.
C'est ça, ouais, c'est vous et c'est vous-même qui faites le service de livraison ?
Non,
ou
on passe
vous
par des transporteurs partenaires.
D'accord.
Qui sont différents en fonction des zones géographiques.
Ouais, là vous risquez d'avoir un surcoût sur ces côtés-là, quoi.
Effectivement. Exactement.
On reste ensemble et on continue à parler technologie et alimentation aujourd'hui.
Il est 13h18.
Europe 1.
Comment mieux manger au quotidien, consommer local et de saison? Une appli nous aide, c'est Étiquetable. A tout de suite.
La food tech est au cœur du dossier du jour dans La France Bouge. Comment cette food tech peut nous aider à mieux manger? On en parle, Raphaël, avec vos invités. Si vous avez des questions, des remarques, si vous êtes adepte de cette nouvelle façon de s'alimenter, dites-le nous sur Twitter, @ou #Europe 1, ou appelez-nous au 3921, c'est 50 centimes la minute, Raphaël.
Quand on fait nos courses, on est parfois tenté d'acheter, je ne sais pas moi, des tomates alors que la saison est terminée, mais pour nous aider à consommer les bons aliments au bon moment, en ayant la certitude qu'ils n'ont pas, tiens, pris l'avion ou le bateau pour arriver jusqu'à notre assiette, eh bien, une appli est là, entre autres pour ça, mais pas que. Bonjour Chafik Hassal.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Étiquetable. Vous avez créé en 2017 cet outil qui est censé nous aider, nous consommateurs, dans nos choix. Je crois que l'aventure pour vous, en fait, elle démarre bien avant. Hein. On est en 2006 et vous avez l'idée de créer un bureau d'études spécialisé dans les impacts des activités humaines sur l'environnement. C'est comme ça que vous commencez à vous sensibiliser.
Exactement. Donc moi, je suis ingénieur. J'ai travaillé dans des grands groupes pendant plusieurs années. Puis j'ai commencé à me poser des questions sur l'avenir de notre mode de vie, de notre mode de production, de la planète. Et donc, effectivement, j'ai commencé à travailler sur ces sujets dès 2006. Puis je me suis intéressé à l'alimentation au bout de plusieurs années parce que je me suis rendu compte que c'était un sujet majeur. On parle beaucoup de changement climatique actuellement. C'est le sujet quand même... on parle beaucoup de transport, d'énergie... Mais ce qu'on sait peu, c'est que l'alimentation représente un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Donc si on veut trouver une solution à ce problème, il va falloir qu'on s'attaque à ce sujet. Et puis l'alimentation, c'est aussi la santé, c'est aussi les pesticides, on parle beaucoup de ces sujets actuellement, mais c'est aussi l'économie locale, les agriculteurs, les éleveurs, etc. Donc il y a plein d'enjeux dans l'alimentation, et donc c'est comme ça qu'est née cette idée du projet Étiquetable.
Donc c'est comme ça que naît l'idée d'une appli pour réduire en fait ces effets au départ. Qu'est-ce que je vais y trouver sur cette appli pour qu'elle m'aide, moi, consommatrice, à avoir les bons réflexes? Je vais pouvoir savoir quels sont les légumes de saison qui ont été récoltés près de chez moi?
Alors oui, l'idée de l'application est très simple, c'est qu'on s'adapte en fait aux habitudes de consommation alimentaire du citoyen. Donc à chaque étape, quand vous faites vos courses par exemple, dans l'appli, vous allez trouver les fruits et légumes de saison et locaux de votre région. Ça aussi, c'est une nouveauté, c'est pas juste les fruits et légumes de saison, mais c'est aussi ceux qui sont produits dans votre région, ce qui est intéressant aussi. Vous allez, par exemple, quand vous allez chez le poissonnier, avoir la liste des poissons qui sont menacés par la surpêche. Ça aussi, c'est un enjeu majeur. Donc, vous allez pouvoir choisir les poissons qui sont plutôt recommandés et éviter les autres. Vous rentrez chez vous, vous allez faire la cuisine. Il y a des recettes qui sont proposées, qui sont des recettes équilibrées, bonnes pour la planète, etc. Et vous n'avez pas envie de cuisiner, vous allez plutôt au restaurant. Donc, on va vous proposer des restaurants autour de chez vous qui sont engagés, qui font du bio, du local, etc. Et aussi, les lieux où vous pouvez faire vos courses. Les magasins en vrac, les magasins bio, etc.
Voilà. On a testé, Elisabeth. Ouais,
j'ai
qu'est-ce
testé.
Que vous nous avez trouvé ce matin?
C'est très bien fait, hein, parce que la vraie valeur ajoutée de votre appli, c'est la géolocalisation. Parce que des sites de recettes de cuisine, on en a partout. Mais là, par exemple, vous êtes au supermarché, vous voulez savoir quels sont les fruits et légumes de saison. Eh bien, vous allez dans la case aliments de saison et vous avez le mois de septembre qui est affiché avec... les fruits de saison locaux et non locaux. Donc là, en ce moment, c'est les framboises, la poire, la pomme, la pastèque ou encore la reine Claude. Tiens, Raphaël, vous voulez une recette anti-fringale?
Comment vous savez que j'ai faim?
Non, écoute, c'est peut-être l'heure. Alors, vous allez dans recettes. Dans le recette, on vous propose plein de choix de recettes. Des recettes, évidemment, gluten, végétariennes, autour de la viande, des poissons. Et pour la recette anti-fringale, je vous suggère, Raphaël, oui, un bouillon de tofu et œufs à la tomate.
Bon.
Ou pourquoi pas un pancake à la banane. Donc on n'est pas dans le régime non plus, hein. On est juste dans la recette anti-fringale. Vous avez aussi une rubrique astuces et infos, par exemple comment planter vos tomates cerises, vos radis, et évidemment la liste des restaurants engagés autour de chez vous. Donc c'est vraiment comment bien manger autour de chez vous et en fonction de vos goûts.
Justement, vous avez réussi à avoir 150 000 téléchargements. Vous attendiez justement à ce qu'il y ait une vraie appétence pour cette appli?
Alors, l'appétence des citoyens pour ces sujets, ça, on l'avait identifié. C'est pour ça qu'on a fait tout ça. Après, c'est effectivement, au début, on a été surpris du nombre de téléchargements.
Ouais,
le bouche à oreille fonctionne très bien. On a des gens qui téléchargent l'appli parce qu'on leur demande comment vous nous avez connus. Et certains me disent par ma fille, par ma collègue, etc. Donc là, on est vraiment ravis parce que ça veut dire que quand vous donnez un conseil à vos amis, c'est que ça vous plaît. Et donc, on est très contents. Il y a quand même un autre sujet qui est très important pour nous, parce que là, on parle du grand public, mais Étiquetable, c'est aussi un projet pour les professionnels. parce qu'en fait, nous, notre objectif, c'est de faire évoluer l'alimentation vers une alimentation plus durable. Et donc, on s'est dit qu'il faut travailler sur les deux sujets. Et donc, on travaille aussi avec les professionnels de la restauration et de l'agroalimentaire. Et là, on va faire un peu la même chose, mais là, c'est un logiciel qui va leur permettre de calculer les impacts de ce qu'ils produisent. Donc, sur la santé, sur l'environnement, sur l'économie locale. Et donc, c'est les deux pieds, en fait, pour faire bouger les choses. Il faut qu'on travaille
pour rééquilibrer.
Voilà, avec les collectivités, les entreprises et puis les citoyens.
Riyad ?
Justement, j'ai une question qui découle. Comment vous perçoivent les restaurants non engagés ou les acteurs de la distribution non engagés ? Alors, parce que finalement, vous faites la leçon un peu à tout le monde, à leur dire, ouais. Voilà, c'est ça qu'il faut consommer, donc vous imposez une forme de mode d'alimentation.
Écoutez, je ne sais pas ceux qui nous perçoivent négativement, je ne les connais pas, je n'ai pas eu vent, mais par contre, on a souvent des gens, on va dire, qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas connus pour l'être, qui sont, on va dire, dans le plus conventionnel, qui nous contactent quand même pour faire des choses. Donc c'est là où nous, on est très intéressés.
Quoi comme chose ?
Eh bien, par exemple, on travaille avec des acteurs de la restauration collective pour afficher dans les restaurants, dans les restaurants d'entreprise, les impacts des plats sur l'environnement, sur la santé, etc. Donc voilà, c'est eux qui sont venus nous voir pour qu'on les aide à travailler là-dessus. Et puis là, on vient de sortir cette semaine avec un site de vente de produits bio en ligne qui s'appelle La Fourche.
Oui.
Voilà, l'affichage carbone de tous leurs produits. Donc on est à 1100 et là, on va être à 1500 produits où on a calculé le score carbone de leurs produits. Il est affiché à leurs clients. Donc ça, c'est vraiment une innovation et on aimerait emmener en fait tous les distributeurs et tous les fabricants dans ce genre de transparence.
Ouais, pour qu'il y ait une prise de conscience. On reste ensemble et on parle technologie au service de l'alimentation. À tout de suite.
Il est 13h28. Europe
1. Et si demain, on pouvait, en entrant ses données de santé, ses goûts, avoir des repas et un programme de sport sur mesure, c'est ce que fait Goodmix. À tout de suite.
En quelques années, la food tech a su s'imposer dans le paysage des startups, dans notre quotidien. Est-ce que cette food tech peut nous aider à mieux manger ? On en parle cet après-midi dans La France Bouge. Si vous souhaitez réagir ou poser des questions à nos entrepreneurs, acteurs de la food tech, appelez-nous au 3921, c'est 50 centimes la minute, ou écrivez-nous via Twitter, @Europe1Raphaël.
On manque tous de temps. Or, dans une même famille, parfois, en fonction des problèmes de santé, des allergies des uns ou des autres, des envies de tout le monde, on a du mal à savoir ce qu'on va faire à dîner, par exemple, ne serait-ce que ce soir. Bonjour Thierry Danois.
Bonjour Raphaël.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de Goodmix. Alors, vous avez créé une plateforme digitale de coaching nutritionnel personnalisé. L'idée, c'est de manger sain et de bouger plus. Je crois que c'est à la suite d'une histoire familiale que vous avez décidé de vous engager. C'est votre oncle qui a été victime d'un cancer.
Oui, voilà. Victime d'un cancer et lui-même, en fait, professeur en cancérologie. Et lorsqu'en fait, on lui a remis le diagnostic en sortant et cette recommandation nutritionnelle, il s'est avéré qu'en fait, il ne savait pas quoi faire, comment bouger, ni lui, ni son épouse. Et donc, c'est vrai que j'étais un petit peu étonné parce que je me suis dit, si un sachant ne sait pas quoi faire, comment cela pour tout le monde ? Et puis, une autre personne très proche qui, elle, a eu, donc tout va bien, deux cancers, qui avait une connaissance médicale, mais qui n'était pas du tout médecin, qui avait donc cette capacité à aller chercher de l'information, s'est retrouvée justement à être submergé d'informations et ne pas savoir quoi faire puisqu'on entendait différentes écoles. Et là, je me suis dit comment arriver à simplifier et à simplement traduire une recommandation nutritionnelle pour tout un chacun.
Donc, il y avait les préconisations médicales d'un côté et puis la réalité.
Et
vous vous dites qu'il faudrait arriver à proposer des choses, à faire du sur-mesure en fonction de la préconisation en question ?
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, on a tous nos propres contraintes, nos goûts, nos envies. Et c'est ce qui nous importe nous aussi, c'est notamment lorsqu'on a une pathologie, c'est un petit peu compliqué au jour le jour. Donc, comment arriver à oublier sa pathologie et comment simplifier la chose. Et donc, comment, à partir de ces critères, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, si l'on a une éventuelle allergie et ou une intolérance alimentaire, et pourquoi pas donc une maladie chronique, comment simplement on peut générer des recettes qui vont être équilibrées, adaptées à son profil, et puis notamment de la préconisation d'activité physique, parce que manger bien, c'est super, mais ça ne prévient pas des maladies chroniques, hélas.
Comment vous avez fait pour élaborer ces recettes ? Vous vous êtes fait aider ?
Oui, bien sûr, on s'est fait aider. Donc, on a des nutritionnistes avec nous, des médecins, mais en fait, j'ai passé 3 ans à faire de la R&D, et en fait, à construire tout un écosystème. Et donc, on travaille avec Uni La Salle, qui est à Beauvais, on travaille avec Rennes, on travaille avec la Sorbonne, pour être sûr que nos recettes sont vraiment correspondent vraiment aux différents critères qui sont nécessaires aux personnes, et notamment sur les effets secondaires.
Vous avez élaboré 200 recettes, je crois.
Oui, voilà.
Aujourd'hui, vous allez en sortir un millier d'ici le mois de novembre.
D'ici le mois de novembre, puisqu'on va démarrer une expérimentation. Donc voilà, il faut qu'on puisse avoir un volume un petit peu plus important sur ce type de recettes.
Et alors, l'idée, c'est aussi de vendre aux entreprises.
Oui,
Pourquoi
les entreprises? Parce qu'aujourd'hui, c'est un vecteur de diffusion beaucoup plus important et on a été chercher la problématique des entreprises. La première, c'est en termes de sa responsabilité sociétale. Donc, qu'est-ce qu'elle peut apporter d'un côté à ses salariés, ses collaborateurs dans le cadre de la qualité de vie, au travail, le bien-être et le handicap. Et de l'autre vecteur, c'est qu'est-ce qu'elle peut apporter à ses clients ou ses fournisseurs en termes de solutions de prévention santé.
Riyad ?
Oh bah moi, je trouve ça génial. C'est là où la technologie, elle apporte tout, quoi. Parce que effectivement, quand on suit, on dit, bon, il faut manger, bouger, 5 fruits et légumes. Alors, des gens, je sais pas si c'est pas 5 fruits plus 5 légumes, ou si c'est 5 fruits et légumes. Donc, ça, déjà, personne ne sait. Il faut marcher 45 minutes. C'est à peu près ce que je sais. Et puis, alors, si vous rajoutez du vegan, du sang porc, avec des œufs, avec etc., et que vous êtes une famille de 4, vous n'arrivez pas du tout à vous faire un repas, quoi. Vous savez plus du tout quoi manger, et surtout comment le cuisiner. Et ça, je trouve ça super. Je sais que ça avait été une initiative gouvernementale qui avait été faite au départ là-dessus, la fabrique à menu. Mais par contre, c'est vrai que ça manque de mise à jour. Et donc là, entendre qu'il y a plein de recettes, je vais aller faire un tour sur Goodmix.
Elisabeth, en matière de coaching nutritionnel, vous avez trouvé des choses.
Oui, il y en a d'autres. Vous avez par exemple Phil Eat, c'est une Française qui, après 10 ans de troubles alimentaires, a lancé là, en janvier cette application pour aider les femmes et les hommes qui souffrent de troubles alimentaires, d'anorexie, de boulimie, à noter tout simplement leur repas, le contexte du repas, si c'était un repas seul, à la maison, avec des amis, au travail, les sensations pendant le repas, si on a eu des vertiges, un écœurement, et évidemment les émotions, parce que quand on a des troubles alimentaires, les émotions sont intimement liées. Et ensuite, on peut avoir une vision globale de ce comportement alimentaire et on peut transmettre toutes ces données à son médecin. Vous avez aussi Xtag, c'est une application qui a été conçue par un Français en lien avec des allergologues. L'appli compare la composition d'un produit alimentaire à une liste d'allergènes scannés sur une carte de santé associée au profil de celui qui consulte.
Thierry Danois, vous êtes 6 dans l'entreprise aujourd'hui. Oui. Vous avez rejoint l'accélérateur de la Croix-Rouge et vous souhaitez aujourd'hui mettre la plateforme à disposition, c'est important de le signaler, de personnes avec des risques d'Alzheimer. C'est-à-dire que vous allez travailler davantage avec eux?
Oui, voilà. Donc, on est sur un projet de recherche. On vient de passer une première étape de validation. Donc, derrière, c'est la BPI. Donc, c'est une belle référence. Et c'est comment on peut prévenir le déclin cognitif normal, déjà, pour lorsque l'on vieillit, et puis pathologique, donc lorsqu'on est atteint d'Alzheimer, et comment sur une période aussi où on peut y avoir de la réversibilité, justement, pour pouvoir mieux accompagner et mieux prévenir ce type de maladie. Donc c'est vrai que c'est un projet d'envergure et on fait tout pour pouvoir le valider. C'est un projet de recherche de 5 ans.
Goodmix, c'est du B2B, mais c'est aussi du B2C, c'est-à-dire que ça s'adresse aussi à monsieur, madame, tout le monde?
Oui, tout à fait. En fait, dans notre première approche aujourd'hui, elle est B2B, parce que voilà, on a une entreprise et voilà, elle est financière.
C'est gratuit pour les utilisateurs lambda. Enfin, si demain je me connecte, c'est gratuit ou pas?
Non, ce sera pas gratuit, mais on travaille sur un prix qui soit, voilà, un abonnement qui soit mensuel, comme aujourd'hui ce qui se pratique et qu'on peut l'arrêter. Mais l'idée, justement, c'est qu'on traite notamment des pathologies chroniques, donc on est dans le temps. Donc c'est comment, au fur et à mesure, on apporte des fonctionnalités nouvelles avec tous les objets aujourd'hui, les capteurs. C'est comment, avec toutes ces données, on va pouvoir plus affiner les préconisations. Mais donc l'idée, c'est de pouvoir évidemment aller sur le consommateur final.
On reste ensemble et on vous attend sur Europe 1.
Il est 13h37.
Europe 1.
À vous de nous dire ce que la technologie a changé dans votre manière de vous alimenter. On vous attend au 3921 et sur Twitter. C'est la France qui bouge. Europe 1.
La France bouge avec un dossier du jour consacré à la food tech. Comment peut-elle nous aider à mieux manger? On en parle, Raphaël Duchemin, cet après-midi avec vos invités.
Thierry Danois, fondateur de Goodmix, Shafi Kassal, cofondateur d'Étiquetable, et Pierre Barnier, cofondateur de Familylit. Trois exemples qui nous montrent qu'effectivement, cette technologie peut être à notre service quand il s'agit d'alimentation. Toujours à mes côtés, évidemment, Elisabeth Assayag et notre coach, c'est Riyad Boulanoir. Je vous propose tout de suite d'aller voir ce qui se dit justement sur cette technologie dans l'alimentation. Dans la rue, c'est au micro de Laetitia Farine.
Bonjour, je m'appelle Anaïs et j'ai 32 ans.
Qu'est-ce que vous pensez des applications pour mieux manger ?
connaissant l'industrie agroalimentaire, je pense que ça va être un petit peu détourné et que les industriels qui aujourd'hui ont des produits qui sont mauvais, voire médiocres, vont trouver la manière en fait à ce qu'ils soient bons, etc. etc. Pour que ce soit les industriels qui transforment en fait leur formule pour nous vendre des choses pas spécialement bonnes pour notre santé, non.
Ah, alors est-ce que les industriels vont arriver à détourner le système, Shafik Hassal?
Bah, je ne sais pas si vous avez vu, mais donc Yuka, vous connaissez.
Bien sûr.
Je crois que c'est Intermarché qui a décidé de changer 900 recettes de ses produits pour avoir un meilleur score Yuka. Donc, on va dire que ça, c'est un effet très bénéfique.
Ça veut dire que le consommateur, grâce à ce type d'application, peut avoir un effet sur les géants.
Ah bah bien sûr, bien sûr. Yuka a fait vraiment bouger les lignes pour le coup. Nous, on aimerait bien faire la même chose sur la partie environnementale. Nous, on incite les gens aussi à cuisiner, à aller dans les marchés auprès des producteurs et à faire des produits frais, etc. Parce que bon, on va pas manger que de l'industriel. Donc, mais si ça peut faire bouger les acteurs, tant mieux.
Il y en a qui vous ont contacté déjà en voyant étiquetable et qui vous ont dit bon, ben, on aimerait travailler avec vous.
Oui, tout à fait. Ouais, ouais. En tout cas, pour l'instant, on est dans la restauration surtout. Et puis, sur les produits, entre guillemets, de grande consommation, bah, on a commencé avec des produits bio déjà. Donc, eux sont les plus engagés, donc ils étaient intéressés. On verra pour la suite.
On continue à vous tendre le micro.
Bonjour, je m'appelle Sandrine et j'ai 36 ans. Je pense que c'est bien de compter sur les nouvelles technologies. Mais qu'à un moment, il faut aussi qu'on soit responsable de ce qu'on fait. C'est-à-dire que les gens, ils en sont au point où ils ne savent pas comment manger parce qu'ils s'attendent à ce que leur téléphone ou leur montre leur dise quoi faire. Il y a une autre chose, c'est que je m'écoute. Je sais que si je mange plus de légumes, je vais me sentir mieux. Et si je mange beaucoup de viande ou beaucoup de frites ou de produits gras, bah, je vais me sentir mal, en fait. Je veux dire, c'est... Non, mais c'est juste ça, c'est du bon sens.
C'est du bon sens, on en manque parfois, Thierry Danois. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un pour nous aider, nous remettre dans le droit chemin.
Tout à fait. On pense quelquefois qu'on a un comportement génial, mais en fait, dans la réalité, ce n'est pas si évident que ça. Et donc, c'est vrai que d'être accompagné au quotidien ou dans le temps, en fait, en fonction de ses propres contraintes, c'est plutôt bien. Et au moins, on est sûr d'être dans le bon chemin.
On reprend de bonnes habitudes alimentaires. Voilà. Allez, on continue. Allez vous voir dans la rue.
Bonjour, je m'appelle Benjamin, j'ai 22 ans. Alors moi, j'ai utilisé Yuka et Fat Secret principalement. Moi, ces applications, elles m'ont servi à compter les calories que je mangeais, faire attention aux teneurs en lipides, en glucides et les additifs utilisés, s'ils étaient bons ou mauvais, et de faire attention du coup à ma ligne. Et pas forcément de perdre du poids, mais surtout de faire attention à ce que je mange et de garder une hygiène de vie plutôt saine.
Ouais, cuisiner équilibré, ça c'est quelque chose qui vous parle, Pierre Barnier?
Oui, oui, complètement. Mais c'est
faites
vrai que...
attention, vous, à la composition de vos plats.
Bah, déjà, tout d'abord, on n'a pas de produits transformés industriels. Et c'est ça toute la différence. Les produits industriels, vu qu'ils sont faits en très grande quantité, bah, ils sont obligés, dans les process, d'ajouter de l'épaississant, donc de l'amidon de maïs, ou des additifs, des conservateurs, etc. Donc déjà, manger, consommer des produits naturels et faits comme à la maison, bah, ça fait qu'on n'a pas ce type de produits en plus. Parce que ce qui fait que les industriels, ils doivent rajouter souvent du sel ou du sucre pour rajouter du goût. Et donc,
les fameux exhausteurs de goût.
Exactement.
C'est ça.
Et c'est ça qui fait qu'on mange souvent trop salé. Donc nous, on fait attention à ne pas mettre trop de sel.
Et vous mettez sous vide, hein, vos produits.
Exactement.
Pour pouvoir les transporter dans des bacs...
nos colis, c'est
congélation.
Voilà, exactement. C'est des mini-glacières qu'on a confectionnés avec de la laine recyclable et recyclée. Et des packs
donc
de
c'est
glace.
Vertueux jusqu'au bout.
Exactement. Et on les récupère. On propose à nos clients de nous les renvoyer.
Riyad ?
Ce qui est intéressant là, sur les témoignages qu'on a entendus, c'est qu'on sent qu'il y a vraiment le capital confiance qui a été complètement écorné, parce que même ceux qui font des applis qui sont honnêtes, on commence à se dire mais est-ce qu'ils vont pas se mettre de mèche avec un industriel et à la fin pervertir l'appli pour nous faire croire que c'est encore bon, hein, on le sent, hein, c'est le sentiment. Donc il y a un travail, il y a sûrement aussi un travail de pédagogie et d'éducation. On n'a pas appris à l'école ni à cuisiner ni à bien manger, donc effectivement c'est là où la technologie, je pense qu'elle nous aide énormément. Après il faut faire attention. Alors moi j'utilise Yuka, alors quand je mets du beurre il me dit trop gras, quand je mets du sucre il me dit trop sucré, donc il y a un moment il faut aussi savoir un peu s'arrêter et effectivement faire revenir un peu de bon sens, mais ça on y arrivera une fois qu'on aura une vraie éducation alimentaire et physique.
Elisabeth, qui dit alimentation durable, dit aussi stop au gaspillage alimentaire, forcément. Et là aussi, on a des applis, des solutions.
Oui, alors vous avez par exemple Frigo Magique. Frigo Magique, c'est une appli pour cuisiner vos restes, tout simplement. On a tous dans notre réfrigérateur ou dans nos placards des produits, mais qui ne nous inspirent pas forcément à l'heure du repas. Et ben, Frigo Magique vous donne des idées pour réaliser ces plats avec l'ensemble des aliments dont vous disposez et vous permet donc d'offrir une seconde vie à vos restes. Vous avez aussi Fruit and Food. Là, ça vous permet de donner, de troquer ou de vendre tout ce que vous avez en plus dans votre jardin. Pour celles et ceux qui ont la chance d'avoir un jardin, grâce à la géolocalisation et à la messagerie interne de Fruit and Food, vous pouvez rentrer en contact avec vos voisins qui sont peut-être producteurs. Et là aussi, vous avez des conseils, des potagers, des surprises et des recettes.
Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui pour cette technologie au service de notre alimentation. Je vous remercie à tous les trois d'être venus.
Merci beaucoup.
Partager ce moment avec nous, hein. C'était presque le moment du repas. Je voudrais aussi vous parler, parce que c'est important, et on salue notre coach Frédéric Mazella du Digital Day. Vous savez, c'est en ce moment, c'est aujourd'hui, c'est le Davos des startups. C'est important qu'on en parle parce que les startups, eh bien, c'est l'avenir. Vous en êtes la preuve aujourd'hui. Ça se tient aujourd'hui, ce Davos des startups. Et vous le savez peut-être, Emmanuel Macron a annoncé hier qu'il y avait un soutien massif, hein, pour ces start-up, pour le gratin de la tech grâce à la finance. Il y a des fonds qui vont être levés, des investisseurs français qui vont miser davantage sur les entreprises innovantes. Donc voilà, petit coup de chapeau à ce Digital Day aujourd'hui dans La France Bouge.
Il est 13h46.
Europe 1.
Et on reste ensemble. Elle est née, elle, dans les montagnes de Haute-Savoie. C'est une référence pour les amoureux des tisanes, notamment les deux marmottes et l'entreprise qui va bien. À tout de suite.
Europe 1, La France Bouge. Raphaël Duchemin.
Et c'est l'heure, Raphaël, de découvrir l'entreprise qui va bien.
Et cette entreprise, eh bien, c'est les deux marmottes. Bonjour Christian Polge.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le président de cette belle entreprise qui est née en Haute-Savoie, hein, pas très loin du lac Léman, au nord d'Annecy, dans les années 70. C'est un couple de parfumeurs, en fait, qui la lance.
Et exactement. En fait, il y a eu un changement législatif en 76.
Simone Veil.
Exactement. Simone Veil a pris un décret qui libéralisait, en fait, 35 plantes médicinales hors du monopole des pharmacies. Et Maurice Lebras et son épouse, à l'époque, se sont dit, eh bien, voilà une opportunité, en plus des produits qu'on vend déjà, comme de l'eau de rose ou de la lavande, de faire une infusion et de vendre une infusion. Et c'est comme ça que ça a commencé.
Donc, à Bon-en-Chablais, c'est ça?
Exactement, à Bon-en-Chablais.
On prononce ou pas le S?
Alors, on ne prononce pas le S. Et Bon-en-Chablais, c'est entre Évian et Genève, ou entre le lac Léman et le Mont-Blanc, dans une région qui est vraiment magnifique.
Alors, il compose une tisane avec sept plantes différentes?
Exactement, ça commence comme ça, avec donc la recette encore en place aujourd'hui pour l'infusion des marmottes. Et puis les choses changent quand même au début des années 2000, puisque l'entreprise est reprise par le beau-fils donc, de son créateur. Et là, Jean-Marc Stasicki va vraiment impulser une nouvelle vision qui est de tout contrôler, de manière à être sûr et certain que la qualité soit parfaite.
C'est-à-dire vérifier d'où viennent les plantes, comment elles sont transformées.
C'est Il veut avoir la main sur tout le process. Et donc, il dit en fait deux choses assez simples. Il dit, un, je veux aller acheter moi-même les plantes directement chez les producteurs et je veux avoir la relation directe avec les producteurs. Et deux, je veux assurer moi-même toute la transformation des plantes jusqu'à l'expédition en direct vers des magasins.
C'est d'ailleurs à ce moment-là que l'usine est créée.
Ça a commencé comme ça, c'est une petite usine. Après, il y a une plus grosse unité de fabrication, on appelle ça l'atelier, en fait, qui a été créé en 2012. Mais c'est vraiment là-dessus que l'entreprise s'est construite et c'est encore aujourd'hui comme ça qu'on fonctionne.
Et c'est lui, d'ailleurs, qui donne le nom des deux marmottes?
Exactement, c'est lui qui donne le nom des deux marmottes. Et donc, aujourd'hui, on a une activité qui est encore tout à fait unique puisque notre savoir-faire, c'est d'abord d'aller dénicher des plantes chez des producteurs. Et moi, j'y vais maintenant. Et ça, c'est vraiment à chaque fois, c'est un bonheur parce qu'on discute avec des gens qui sont vraiment exceptionnels et qui connaissent très, très bien, en fait, la terre. Et ensuite, lorsque ces plantes brutes arrivent chez nous, on va d'abord les mettre en quarantaine. On va tester, en fait, 500 molécules de pesticides. On va tester le niveau de béton lourd. On va aussi tester la pureté de la plante. Et c'est uniquement lorsque les tests seront, je dirais, conformes à nos standards, qu'on va ensuite les libérer dans les ateliers plantes pour les couper, les tamiser et faire des mélanges qui donne ensuite toutes ces belles infusions avec un goût vraiment exceptionnel.
Avec un catalogue de combien de références aujourd'hui?
Environ 35 aujourd'hui. Et on lance régulièrement des nouveaux produits.
C'est le cas ici, si vous nous suivez sur Europe1.fr, on a dans votre catalogue des nouveautés pour les enfants notamment.
Exactement. Donc, c'est vrai que souvent, on a l'impression que les infusions, c'est pour ma grand-mère. Mais bon, ça, c'était quand même il y a longtemps.
Il y a le fameux pisse-mémé d'ailleurs.
Exactement.
Mais vous l'écrivez pisse comme la P, hein, P-E-A-C-E.
Tout à fait. Mais moi, ma vision, c'est de dire qu'en fait, les infusions, c'est quoi? C'est des plantes. C'est simplement une recette de plantes dont certaines peuvent avoir un bénéfice santé par leur principe actif. Et donc, il n'y a pas de raison qu'on limite ça en fait aux adultes. Et donc, on a lancé deux produits aussi pour les enfants.
Riyad, notre coach.
Ouais, non, c'est une super success story. Déjà, je suis un consommateur de marmotte. J'aime beaucoup le produit. Et c'est vrai qu'on a remis l'infusion au goût du jour. C'est plus la camomille de mémé qu'elle prenait uniquement. Maintenant, il y a une diversité des goûts. Vous avez beaucoup retravaillé votre image. Très, très bien, d'ailleurs. Elle est très accessible. C'est de marmotte, ce côté un peu tablette de chocolat et Ricola en même temps. Enfin, ça la rend accessible. Et c'est plus le truc un peu formel du thé qu'on a l'habitude. Donc, ça, vous avez une diversité de goûts. Bravo, quoi. Ça marche. C'est pour ça qu'il marche bien.
Ouais. Merci. C'est grâce à l'équipe qui travaille et qui est vraiment une équipe.
Et puis, un goût de la perfection également. Enfin, ça, c'est bravo.
60 salariés qui vous suivent aujourd'hui. Dites-moi, comment vous êtes arrivé dans cette aventure? Parce que c'est quand même assez récent. Et puis, vous avez travaillé dans des multinationales. Qu'est-ce qui vous a pris de vous diriger vers les deux marmottes? Pourquoi les deux marmottes?
Je pense que chacun a son parcours de vie.
Oui.
Moi, j'ai eu une vie professionnelle très riche dans une grande entreprise. J'ai pas mal voyagé. J'ai vécu pendant 7 ans à l'étranger. Et à un moment, j'avais envie de revenir chez moi, en France, et de pouvoir vivre des choses tout simples, telles que m'asseoir à une terrasse de café et parler français. Ça peut paraître surprenant, mais j'avais besoin de cela.
Et puis, vous aimez la montagne.
Et j'adore la montagne aussi. Et donc, je suis revenu en France. Et avec l'idée de faire autre chose, et donc de ne plus travailler dans une entreprise, mais de travailler plutôt dans une petite entreprise. Et comme je suis plutôt quelqu'un d'entreprenant et peut-être entrepreneur, et que j'aime l'action et que j'aime travailler des équipes, c'est vrai qu'à un moment, j'ai eu la chance de rencontrer en fait Jean-Marc Sezeki. Et puis, les choses sont bien passées. C'est comme ça que j'y suis aujourd'hui. Et j'ai été très heureux.
Votre idée, c'est de développer cette entreprise qui reste une entreprise régionale et de lui donner une notoriété nationale. C'est déjà en cours. Internationale aussi, ça, vous y travaillez?
Oui, on travaille sur les deux. Donc, il faut être réaliste. On est une petite entreprise. Donc, la première des choses que je souhaite faire, c'est que nos produits soient disponibles pour tous les consommateurs en France, dans tous les magasins. Or, aujourd'hui, on est présent dans un magasin sur trois. Donc, la priorité numéro un, c'est vraiment de rendre les produits disponibles en France dans les magasins, mais aussi au bureau, aussi, pourquoi pas, dans les restaurants et les hôtels. Et puis, dans un deuxième temps, bien évidemment, ce qui m'intéresse, c'est aussi de porter les couleurs des deux marmottes et de la France à l'international. Et j'ai un petit peu de savoir-faire, donc c'est vrai que ça m'intéresserait de le faire.
On vous fait confiance en tout cas pour mener à bien ces projets. C'est les deux marmottes, c'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous raconter son histoire. Merci à Riyad qui était notre coach.
Vous.
Elisabeth, à demain.
On y va là d'ailleurs, ça y est.
Oui, on y va. Et nous partons pour Vannes.
On sera à Vannes demain pour le congrès des pompiers.
Et évidemment.
Vous serez bien entourés, mesdames.